Voilà, Myriam Benesti fait sa thèse à Grenoble. Vous savez, il y a des équipes extrêmement dynamiques à l'Observatoire de Grenoble avec beaucoup de jeunes. Et elle a fait ensuite un postdoc à Florence et maintenant se trouve à l'Institut Max Planck. Lequel ?
Heidelberg.
Heidelberg. À vous la parole.
Donc, d'abord, je vais vous dire que je suis très heureuse d'être ici, de pouvoir vous présenter mes recherches. Et je remercie le professeur Labéry de m'avoir invitée. Donc, je m'intéresse en fait aux régions les plus internes des environnements circonstellaires jeunes. Donc, en fait, une étoile jeune est entourée de gaz et de poussière. Et c'est dans cet environnement circonstellaire que vont se former les planètes. Et donc, j'essaye de contraindre les conditions physiques, donc de densité, de température, et aussi la structure de ces environnements à l'aide d'interférométrie. Donc voici le plan de mon exposé. Donc je vais vous rappeler dans les grandes lignes les différentes étapes de la formation stellaire et planétaire et de l'évolution produits directs comme des disques circumstellaires. Ensuite, je vous rappellerai quelques principes de haute résolution angulaire, donc d'interférométrie. Et je vous présenterai des résultats récents de nos recherches qui utilisent justement l'interférométrie pour contraindre la structure et les conditions physiques dans ces environnements proches. Enfin, je parlerai des perspectives de recherche qui sont intrinsèquement liées à l'avènement de nouveaux instruments imageurs. Donc, juste pour remettre en contexte les différentes unités qu'on utilise dans nos recherches, donc vous êtes tous familiers avec le système solaire dans lequel on vit, donc qui a en fait à peu près une taille de 10 puissance 10 km. Et pour que ce soit plus facile, on utilise en fait les unités astronomiques, qui sont donc une unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Donc notre système solaire, notre système planétaire fait à peu près 100 unités astronomiques. Sauf que donc on tourne autour d'une étoile, notre Soleil, qui est en fait une seule étoile parmi des milliards dans notre galaxie, la Voie lactée. Donc quand on zoome à l'envers pour arriver sur la Voie lactée, les distances sont en fait de 7 ordres de grandeur plus élevées. Donc cette fois-ci, on introduit la notion de parsec, qui est en fait 10 puissance 13 km, et la galaxie a à peu près une taille de 25 000 parsecs. Mais cette galaxie, en fait, n'est pas toute seule. Quand on fait encore un zoom arrière et qu'on prend une photo d'un champ profond avec, par exemple, le télescope spatial Hubble, on se rend compte qu'en fait, à une échelle de 4 millions de parsecs, donc 10 puissance 19 km, en fait, des galaxies, il y en a énormément. Il y a des amas de galaxies, et ces galaxies, chacune d'entre elles, contiennent des milliards d'étoiles qui ont donc autour d'elles aussi des planètes. Et en fait, quand on zoome encore en arrière, donc cette fois-ci ce sont des modèles, on pense que donc, ces amas de galaxies forment en fait un mini-point dans des grandes structures de l'univers. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'en fait on observe des étoiles qui sont très très proches de nous, puisque en fait c'est la limite de nos observations. Et on essaye de trouver des caractéristiques et de faire des études statistiques pour ensuite appliquer cette statistique à tout l'univers. Donc, avant d'en arriver au système planétaire, il faut tout d'abord former des étoiles. Et les étoiles se forment par l'effondrement gravitationnel d'un nuage moléculaire, un nuage de gaz et de poussière très très dense, qui va s'effondrer sous l'effet d'une instabilité. Donc, ces nuages, on les observe par exemple ici, sont des nuages qui sont tellement denses qu'ils sont totalement opaques. Donc, en fait, on n'arrive pas à voir la lumière des étoiles qui, à l'arrière, ne traverse pas ces nuages. Donc, on les voit aussi ici. Donc ces nuages vont s'effondrer sous l'effet d'une perturbation et se fragmenter assez rapidement, donc à l'échelle de 100 000 années, et former des cœurs préstellaires. Donc là, je vais vous montrer une simulation d'un nuage moléculaire qui est très dense, donc c'est-à-dire à peu près avec une masse de 50 masses solaires, relativement petit. Et on va voir en fait, donc ici, les différentes couleurs représentent la densité de la matière. Donc en jaune, la densité est encore plus élevée. Et vous allez voir en fait que ce nuage va s'effondrer, se fragmenter et former des petits cœurs préstellaires qui ensuite vont être éjectés. Donc en fait, les différents mécanismes qui vont aboutir à l'effondrement d'un nuage moléculaire, c'est par exemple une supernova qui va exploser, donc qui va envoyer une onde de choc qui va perturber la stabilité du nuage, ou bien les galaxies spirales, en fait, les spirales sont en fait des ondes de densité. Donc ces ondes de densité traversent à un moment le nuage moléculaire qui était stable et qui d'un coup s'effondre. Donc là, vous voyez en fait des cœurs préstellaires qui sont formés et qui en fait interagissent gravitationnellement les uns avec les autres et qui donc sont éjectés par ces interactions gravitationnelles. Vous pouvez aussi voir que pour certaines d'entre elles, donc je pense que c'est maintenant, ces cœurs qui sont éjectés sont entourés d'un disque. Parce qu'en fait, comme vous voyez, lors de l'effondrement, le nuage tourne et par conservation du moment angulaire, la matière se distribue le long d'un plan équatorial. Donc là, vous voyez clairement ici un cœur préstellaire avec un disque autour. Donc ces disques sont en fait des produits naturels de la formation stellaire. Donc une fois que les étoiles que le nuage Milky Way s'est effondré et qu'on a des étoiles jeunes, on se retrouve avec des pouponnières d'étoiles, donc comme ici Orion, donc des magnifiques images. Donc vous pouvez voir ici les trois étoiles de la ceinture d'Orion qui ionisent très fortement le gaz autour. Donc ça donne c'est des couleurs composites. Donc, vous avez ici la nébuleuse de la flamme, ici la nébuleuse de la tête de cheval. Et donc dans ces régions-là, ce sont typiquement ces étoiles-là que nous on étudie. Donc, quand on zoome dans la constellation d'Orion, on peut trouver, donc comme je vous disais, ces disques autour des étoiles. Et en fait, ces disques donc, sont opaques dans le visible, n'émettent pas dans la lumière visible. Donc si on regarde dans des longueurs d'onde du visible, on va avoir accès à la lumière de l'étoile et la lumière de fond va être absorbée, enfin ne traversera pas le disque. Donc ces disques sont des produits naturels de la formation, mais ils ne sont pas tout seuls en fait. Ils viennent aussi avec des jets, donc de l'éjection de matière, qu'on observe à très très grande échelle. Donc ici, c'est une image en lumière diffusée. Donc en fait ici, vous avez le disque qui est vu par la tranche en fait comme ça. Et ce qu'on voit ici, de part et d'autre, c'est simplement la lumière de l'étoile qui est diffusée le long des bords du disque. Et là, vous voyez ces jets, en fait, donc c'est de l'émission, de l'éjection de gaz dense, et qu'on arrive à voir jusqu'à plusieurs centaines de parsecs. Donc, c'est des jets qui sont à très, très grande échelle. Donc, on peut les étudier en observant, par exemple, leur émission dans différentes raies d'hydrogène ou de fer. Et on peut étudier, d'une part, les conditions de densité, les conditions de température, mais aussi la vitesse de ces jets et quelle est la quantité de masse qui est éjectée de l'étoile. Donc, on arrive à étudier ces jets à très grande échelle, mais on ne sait toujours pas, comme on n'arrive pas à avoir des images à l'intérieur de ces étoiles, on ne sait pas très bien quel est le mécanisme d'éjection et d'où exactement partent ces jets. Donc là, c'est une petite vidéo d'un jet qui a été observé à plusieurs époques où vous voyez en fait la propagation de ces blobs de gaz. Donc, en fait, on a des disques, on a des jets, et en fait, on se demande quelle est la connexion entre les disques et les jets. Et en fait, elle se fait avec ce qu'on appelle l'accrétion. C'est-à-dire que l'étoile jeune doit accréter de la matière depuis le disque, depuis une enveloppe au moment de sa formation, pour pouvoir grossir et acquérir sa masse. Et donc, en fait, on pense, donc pour l'instant, je vous montre que soit des vues d'artistes, soit des résultats de modèles, puisqu'on n'arrive pas encore à sonder à cette échelle, en fait, avec une image directe de ces régions. Donc on pense que le gaz dans le disque est accrété dans le disque et ensuite le long des colonnes de champ magnétique sur l'étoile. Donc en fait, l'étoile a un champ magnétique très fort, donc Evelyne Alessian vous en parlera la semaine prochaine. Et donc, en fait, certaines étoiles ont des champs magnétiques, soit parce que c'est résiduel du nuage primordial, ou bien parce qu'elles-mêmes sont convectives et donc créent un champ magnétique. Ce champ magnétique, qui en général est composé d'un dipôle, va avoir des lignes de champ comme ça, et la matière du disque va donc monter le long des lignes de champ magnétique pour être accrétée le long de l'étoile. Et la connexion entre l'accrétion et l'éjection se fait dans les régions les plus internes du disque. Donc là, on a des échelles qui sont de l'ordre de 10 rayons stellaires, donc à l'intérieur de 0,1 unité astronomique, où en fait les températures sont extrêmement élevées. Et l'accrétion se fait donc le long des colonnes du champ magnétique stellaire, et l'éjection va se faire le long des lignes de champ magnétique du disque, qui est en fait un champ magnétique issu du nuage initial. Donc, quand on revoit la classification générale de la formation des étoiles jeunes, donc on part à 10 000 ans par l'effondrement du nuage moléculaire pour obtenir une étoile jeune très très enfouie dans une enveloppe de poussière et de gaz très très dense. Et au fur et à mesure, cette enveloppe se dissipe et on arrive à peu près à quelques millions d'années à des étoiles jeunes qui sont entourées d'un disque de gaz et de poussière et d'un jet. Et puis quand le système continue à évoluer, on se retrouve après plus de 10 millions d'années avec des systèmes qui ont perdu quasiment tout leur gaz et qui n'ont plus que les poussières résiduelles dues à la collision entre planétésimaux. Donc dans mes recherches, je m'intéresse à cet âge-là, en fait, à des étoiles qui sont à peu près âgées de quelques millions d'années et qui sont en fait au stade où les planètes se forment. Donc en fait, les disques, comment est-ce qu'on peut les étudier ? Tout simplement en regardant quelle est leur émission. Donc on constitue ce qu'on appelle une densité spectrale d'énergie, où en fait on a le flux émis en fonction de la longueur d'onde. L'étoile qui est très très chaude va émettre naturellement dans l'UV et dans le visible. Donc en fait ici on a l'émission de l'étoile qui ressemble à un corps noir. Et ensuite, superposé à l'émission de l'étoile, on va avoir l'émission du disque. Donc les régions les plus internes du disque vont émettre à des longueurs d'onde de l'ordre du micron. Et plus on s'éloigne, plus on va être dans des régions qui sont froides et qui vont émettre à des longueurs d'onde plus longues. Donc on va jusqu'au millimétrique pour les régions les plus externes du disque. Donc cette émission-là, c'est ce qu'on appelle l'excès infrarouge. Donc c'est en excès, l'émission infrarouge en excès par rapport à l'émission de l'étoile. Et c'est grâce à cet excès infrarouge, cette émission infrarouge, qu'on peut savoir s'il y a des disques ou non autour des étoiles jeunes. Et donc ici, je montre un diagramme qui montre la fréquence des disques dans différents amas en fonction de l'âge de l'amas. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on prend chaque amas, on regarde le nombre d'étoiles qui ont un excès infrarouge, donc qui ont une présence de disques, et on voit que cette présence de disques, elle diminue fortement avec l'âge, et que vers 5-6 millions d'années, cette fréquence de disques arrive à zéro. C'est-à-dire qu'on pense que les disques ont une durée de vie de quelques millions d'années. Donc on part à la base avec un disque qui est donc riche en gaz, ici en bleu, avec des poussières, et qui est donc soumis à l'accrétion pour aller sur l'étoile, et aussi à l'irradiation de l'étoile, qui va donc évaporer le gaz et les poussières. Et au bout de quelques millions d'années, on obtient un système où il n'y a plus du tout de gaz. Donc quels sont les mécanismes qui vont faire évoluer ce disque et le dissiper en quelques millions d'années ? Donc il y a tout d'abord l'accrétion, comme je viens de le dire, la photoévaporation, donc l'irradiation de l'étoile sur le disque, donc qui va brûler la matière du disque, les grains de poussière qui en fait vont coaguler et former des planétésimaux, et enfin la dissipation dynamique par un compagnon. Donc ça peut être une étoile, une autre étoile, donc des systèmes binaires, donc vous savez qu'il y en a énormément, et aussi une planète. Donc ça, c'est ce qui excite le plus la communauté en ce moment, c'est la détection de planètes dans les disques. Donc ici, je vous montre une simulation de hydrodynamique où en fait on part, je vais la remettre, en fait on part d'une planète qui est posée dans le disque et cette planète interagit avec le disque, cette planète est suffisamment massive pour créer un sillon planétaire, c'est-à-dire vider le disque de son gaz sur une certaine échelle. Donc vous voyez, ça va relativement vite, donc ici il y a le nombre d'orbites autour de l'étoile. Et on évacue ainsi le disque des régions internes vers les régions externes. Et ça, on a aussi des preuves observationnelles. Donc évidemment, il y a d'autres possibilités. Mais on observe ici, donc c'est dans des longueurs d'onde du millimétrique, donc c'est des régions relativement loin, éloignées de l'étoile, ce qu'on appelle des disques de transition. Donc c'est des disques qui semblent être à un état intermédiaire entre l'état riche en gaz et poussière et l'état final où il n'y a plus de gaz. Et vous pouvez voir dans certains d'entre eux, on voit très clairement la présence d'une cavité qui est résolue. Donc celui-ci, il est vu par la tranche. Et donc cela nous conforte dans l'idée qu'il y a des mécanismes qui vont vider le disque depuis l'intérieur. Et on est aussi conforté dans cette idée parce qu'on a pu détecter assez récemment des étoiles dans leur disque. Donc ici, je vous montre Beta Pictoris. Donc ça, c'est une image composée avec l'émission du disque ici et la planète ici. Et vous pouvez voir ici la planète, donc autour de son étoile. Ici, il y avait la soustraction de l'étoile, donc il faut juste regarder ce point lumineux, qui est donc la planète, située à 8 unités astronomiques de l'étoile centrale, en 2003. Et en 2009, on voit la planète qui a bien tourné. Donc des systèmes planétaires, aujourd'hui on en a trouvé énormément. Donc j'ai regardé hier, il y en a 760 exoplanètes confirmées à ce jour, donc avec différentes méthodes, que ce soit des vitesses radiales, donc qui permettent de mesurer la perturbation de la vitesse de l'étoile due à une planète, ou bien simplement donc le transit, la planète qui passe devant l'étoile et qui donc diminue le flux que l'on mesure. Et enfin, l'imagerie, simplement faire une image, une photo de l'étoile et de la planète. Donc ces différentes méthodes ont toutes différents biais instrumentaux. Donc il y en a certaines qui sont sensibles aux étoiles plus vieilles, il y en a d'autres qui vont être sensibles aux étoiles plus jeunes. Donc pour l'instant, c'est vraiment un diagramme qui va être peuplé. Mais comme vous pouvez voir, il y a énormément de planètes qui sont... Donc premièrement, c'est quelque chose qui est très courant. Et puis vous voyez qu'il y a beaucoup de planètes qui sont localisées dans les régions les plus internes. Donc la distance, ici vous avez la masse donc de la planète en unité de masse terrestre en fonction de la distance à l'étoile en unité astronomique. Et vous pouvez voir que dans la première unité astronomique, vous avez énormément de planètes. Donc il y a quelque chose qui soit un mécanisme qui permet de former ces planètes dans les régions internes ou bien de les faire migrer. Donc, la formation des planètes, c'est comme ça qu'on la voit aujourd'hui. Donc on part de grains de poussière qui ont de la taille de à peu près quelques microns, qui coagulent entre eux pour former des planétésimaux. Plus tard, donc, qui accrètent encore de la matière pour devenir une protoplanète. Cette protoplanète peut migrer dans le disque. Donc on peut avoir des planètes géantes ou des planètes de type terrestre. Ensuite, il y a une période de collision, puisqu'il y a beaucoup de planétésimaux et de protoplanètes. Et à la fin, un réarrangement dynamique qui va donner un système planétaire évolué. Donc aujourd'hui, on observe le début, c'est-à-dire on observe des poussières dans les disques, ça on en est sûr, et on observe aussi des systèmes planétaires. Mais entre les deux, c'est tout le domaine de recherche actuel. Il y a plusieurs théories, et pour l'instant, on ne sait pas très bien comment on passe du grain de poussière jusqu'au système planétaire. Donc les grandes questions qu'on se pose, c'est quelles sont les conditions initiales de la formation planétaire ? Est-ce que les conditions initiales qui sont donc dans les disques de gaz et de poussière vont favoriser tel ou tel mécanisme de formation planétaire? Donc aujourd'hui, il y en a deux principalement. Le mécanisme de formation sur un cœur rocheux, donc avec accrétion de gaz autour d'un cœur, d'un noyau rocheux, et l'effondrement gravitationnel dans les régions externes du disque, donc comme l'effondrement du nuage moléculaire a donné des étoiles, l'effondrement du disque va pouvoir donner des planètes. Donc en étudiant les disques, on va essayer de comprendre les conditions qui sont dans le disque, qui sont donc les conditions initiales de la formation des planètes. Ensuite, on ne sait pas très bien, comme je vous l'ai dit, quels sont exactement les mécanismes d'éjection de matière. Pourquoi, d'où partent les jets et qu'est-ce qui va déterminer la perte de masse dans les jets. Et ces jets-là sont essentiels pour la formation et pour l'évolution de l'étoile, du système étoile-disque et ensuite étoile-disque et planète. Parce qu'en effet, c'est grâce à ces jets qu'on va pouvoir évacuer du moment angulaire qui est en fait récupéré au moment de l'effondrement initial du nuage moléculaire. Donc c'est vraiment un point qui est essentiel. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est aussi ce qu'on observe, quelle est la dépendance de nos observations et de nos conclusions en fonction avec les propriétés stellaires. Si on a une étoile qui est peu massive, une étoile qui est très massive, donc qui va irradier plus, quelles sont les différences? Et en fait, la connexion entre donc, le disque, l'accrétion et l'éjection, comme je vous l'ai montré précédemment, a lieu dans les régions les plus internes. Donc c'est des régions pour lesquelles on n'a pas la résolution suffisante avec un télescope de 8 à 10 mètres pour obtenir une image directe de ces régions. Donc en fait, on pense que ces régions, c'est pour ça que je vous montre un schéma, donc on pense que ces régions sont constituées de la manière suivante. Donc on a un disque de gaz et de poussière qui s'arrête au rayon où se subliment les poussières, c'est-à-dire que les poussières, à partir de 1500 degrés environ, vont brûler, se sublimer. Par contre, à l'intérieur de ce rayon, on peut avoir du gaz, parce que le gaz peut être ionisé, peut être très très chaud, qui est donc accrété vers l'étoile le long des colonnes du champ magnétique stellaire. Et associé à cette accrétion, je vous ai dit qu'il y a des jets, donc des vents, ici j'ai représenté des vents, donc de la perte de masse sous la forme de vents ou de jets. Et ces régions émettent principalement dans l'infrarouge, donc à peu près à une, à une, à une distance de 0,1 unité astronomique. La température va être à peu près de l'ordre de 2000 degrés. Donc ça, ça émet principalement dans des longueurs d'onde de l'ordre du micron, donc dans l'infrarouge proche, jusqu'à une unité astronomique, où la température un peu plus froide va permettre d'émettre à des longueurs d'onde un peu plus longues dans l'infrarouge moyen. Ici aussi, on peut sonder les différentes vitesses d'éjection et les différentes vitesses de rotation. Donc le disque tourne autour de l'étoile et donc on va pouvoir avoir accès à ces vitesses-là. Et le vent émet donc des raies, principalement des raies d'hydrogène, pour lesquelles on peut sonder la vitesse d'éjection. Donc tout cela, ça correspond, comme je vous le disais, à des échelles qui sont extrêmement petites, donc de l'ordre de quelques millisecondes d'angle. Donc avoir une résolution angulaire pour un télescope de l'ordre de 2 millisecondes d'angle, c'est équivalent à prendre une pièce de 1 euro et la placer à 2000 km et essayer de la voir. Donc c'est un pouvoir de résolution qui est extrêmement grand et qu'aujourd'hui on ne peut pas atteindre avec des télescopes uniques. Donc pour cela, on a besoin d'utiliser des méthodes de très haute résolution angulaire qui sont apportées en partie par l'interférométrie. Donc un interférométrie. Pardon, si on utilise un télescope unique de 8 mètres, comme ici au VLT au Chili, on va avoir une résolution angulaire maximale de l'ordre de 40 millisecondes d'angle en bande H. Donc ça, c'est dans l'infrarouge proche. Donc ça, ça nous permet quand même de faire de jolies choses. Donc ici, vous voyez la détection d'une exoplanète et, donc, qui est séparée de son étoile d'une distance de l'ordre de 600 millisecondes d'angle. Donc vous voyez qu'avec une résolution de 40 millisecondes d'angle, on est tout à fait capable de faire ce genre de science. Par contre, dans notre cas, pour les régions les plus internes, donc qui sont de l'ordre d'une unité astronomique, de quelques unités astronomiques, donc de quelques millisecondes d'angle, c'est totalement impossible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on recombine les faisceaux provenant de deux télescopes, séparés d'une certaine distance B, la base. Donc ici, au VLTI, la base maximale est de 140 mètres. Et on forme des franges d'interférence. Donc en faisant cela, c'est comme si on utilisait un télescope unique, qui est donc un diamètre de 140 mètres. On obtient une résolution angulaire de l'ordre de 1,5 millisecondes d'angle, qui donc est tout à fait honorable pour le genre de science que l'on veut faire. Donc la différence entre un télescope classique et un interféromètre, c'est donc que nous, on ne fait pas d'image, mais on fait des franges d'interférence. Donc si vous mettez deux étoiles de taille différente à travers un télescope de 8 mètres qui n'a pas la résolution pour résoudre la surface stellaire, les deux images que vous aurez seront totalement identiques. Alors qu'un interféromètre va vous permettre de distinguer les deux cas avec le contraste des franges d'interférence. Donc un contraste élevé correspond à une étoile qui est relativement faible. Un contraste faible correspond à une étoile qui est relativement étendue. Donc le contraste des franges, qu'on appelle aussi visibilité, nous ramène à l'extension de notre émission. Donc le principe de base, on a une étoile qu'on observe avec deux télescopes, séparés d'une distance B, on observe des franges d'interférence. Et si l'étoile a bougé dans le ciel, les franges d'interférence que l'on voit sur notre détecteur ont aussi bougé. Donc en mesurant la position de ces franges d'interférence, on peut remonter à la position de l'étoile. Donc en gros, cette mesure de position, c'est ce qu'on appelle la phase, et ça nous permet d'avoir accès au photocentre de l'émission dans le ciel. Donc là, je vous ai donné un cas avec deux étoiles, mais on peut faire ça avec des objets beaucoup plus complexes. Donc d'une part, le contraste des franges, la visibilité et la phase nous donnent accès à la visibilité, une quantité qui est complexe, et qui est directement reliée à la distribution de brillance de l'objet par une transformée de Fourier. Et ceci à ce qu'on appelle une fréquence spatiale donnée, donc qui est égale à la base, la séparation entre les deux télescopes, et la longueur d'onde d'observation. Donc, en faisant une mesure interférométrique avec deux télescopes, on a une mesure de V et de phi avec cette base et cette longueur d'onde donnée. Donc, c'est une information qui est extrêmement partielle. En fait, on ne va avoir qu'une seule information sur la distribution de brillance de l'objet, donc un seul point. Si on veut avoir une information beaucoup plus générale sur l'objet, on a besoin d'avoir énormément d'observations, donc énormément de B sur lambda, donc de différentes positions de télescopes. Et pour arranger les choses, la phase, donc, qui était quand même une information quand même cruciale, à savoir de la distribution de la brillance, est brouillée par l'atmosphère, donc on la perd. Et donc à la fin, on est obligé d'utiliser une quantité qui est indépendante de l'atmosphère, qu'on appelle la clôture de phase, donc qui est une quantité un peu complexe, où en fait on somme les phases le long de trois bases que l'on combine. Et cette information, c'est une information d'asymétrie. Donc on n'a plus accès à la position exacte du photocentre dans le ciel, mais on a accès en fait à un niveau d'asymétrie. Donc par exemple, si vous prenez une étoile binaire, enfin une binaire avec deux étoiles qui ont un rapport de flux qui n'ont pas le même flux, vous pouvez voir que le photocentre ici, il va plutôt se décaler vers l'étoile brillante, il ne sera pas au centre du système. Et donc, on sait que la clôture de phase, dans ce cas-là, elle va être non nulle. Donc, c'est une information complexe qu'il faut, en général, interpréter. Ensuite, comme je vous l'ai dit, quand vous avez du gaz, vous pouvez avoir des raies d'émission et des raies d'absorption. Et intrinsèquement, ces raies, elles sont relativement étroites. Mais ensuite, elles peuvent être élargies par plusieurs phénomènes, donc par exemple la rotation ou simplement l'éjection de matière qui va faire que cet atome d'hydrogène va être transporté à des vitesses supérieures à zéro. Donc en général, on peut représenter, par exemple ici, je représente la raie braquette gamma, donc qui est en fait une raie d'émission, une raie d'hydrogène. Donc ici, elle est en absorption. Donc c'est une raie qui est en fait en absorption sur la surface stellaire de l'objet en question, qui tourne, donc elle est élargie par la rotation, donc vous voyez, jusqu'à des vitesses qui vont jusqu'à 2000 km/s. Et ce qu'on peut faire, donc je vous ai dit qu'on perdait la référence de phase en absolu, mais on peut comparer les phases qu'on observe par rapport à une autre phase, qui va être une référence que nous, on fixe arbitrairement. Donc disons que là, je fixe ma phase ici, à moins 3000 km/s, je la fixe à zéro, je peux regarder quelle va être la différence de phase sur les autres longueurs d'onde à l'intérieur de ma raie. Et en fait, c'est très très puissant parce que ça me permet de voir que le photocentre, peu importe où est-ce qu'il se situe véritablement, mais en tout cas, il se décale à travers la raie. Donc d'un canal spectral à un autre, le photocentre a changé de position. Et ça, on peut le ramener en fait à des mouvements directement de l'objet. Donc par exemple, si vous avez un disque qui va tourner, vous allez avoir ce mouvement-là avec cette vitesse-là, l'atome d'hydrogène ici qui se rapproche de vous et cet atome d'hydrogène qui s'éloigne de vous. Et donc, vous allez pouvoir modéliser cette rotation, par exemple, par une loi de rotation classique, comme une loi de rotation keplérienne. Donc, au VLTI, on a quatre gros télescopes de 8 mètres, mais qui sont fixes. Donc, on a beaucoup de sensibilité, mais par contre, ils sont fixes. Donc, on a des bases, 6 bases fixes entre 47 et 130 mètres. Et on a quatre petits télescopes, par contre, de 1,8 mètre, que l'on peut bouger sur 30 positions, et ça, c'est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, il y a trois instruments principaux. Donc, une fois qu'on a récupéré les deux faisceaux de lumière des deux télescopes, ou plus, il faut ensuite un instrument pour pouvoir faire les franges d'interférence. Donc, MIDI travaille dans l'infrarouge moyen à 10 microns. Donc, dans notre cas, ça va sonder des distances de l'ordre d'une dizaine d'unités, enfin 5 à 10 unités astronomiques dans les disques. Amber, donc, il va travailler dans les bandes de l'infrarouge proche, avec recombiné 3 télescopes. Donc, ça nous permet d'avoir simultanément plus d'informations, parce que plus de mesures que dans le cas de MIDI. Et enfin, un instrument qui est 100% français, qui a été construit à Grenoble, Pioneer. Donc, il combine 4 télescopes, donc c'est le premier instrument au VLTI qui permet de recombiner 4 faisceaux en même temps, donc c'est vraiment une énorme avancée technologique et en termes scientifiques, et qui fonctionne dans la bande H, donc dans l'infrarouge proche. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques résultats récents. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qu'on utilise en pratique, ce sont des visibilités, des clôtures de phase, éventuellement des phases différentielles et des mesures de flux du disque. Mais on n'a pas d'image directe. Donc pour pouvoir comprendre ces informations, on a besoin d'avoir un modèle pour pouvoir les interpréter. Et les modèles qu'on utilise dans les disques sont basés sur le principe qu'il y a deux types de chauffage, c'est-à-dire qu'on a du gaz et de la poussière dans ce disque, par exemple qui va jusqu'à l'étoile, et que les deux types de chauffage qu'on a, c'est l'accrétion de matière à l'intérieur du disque qui va chauffer le disque, et l'irradiation de l'étoile directement sur les grains de poussière et sur le gaz. On peut éventuellement considérer la présence de planètes dans le disque, qui vont donc perturber la structure en densité du disque. Et après, on fait ce qu'on appelle le transfert radiatif, c'est-à-dire qu'on prend chaque grain de poussière et on lui fait absorber des photons qui viennent de l'étoile, réémettre des photons, donc le grain de poussière chauffe, et aussi diffuser la lumière. Et donc, on calcule ça sur l'ensemble des grains de poussière du disque et les photons ensuite ressortent du disque et on met une sorte de caméra artificielle virtuelle dans notre code pour nous donner une image du disque. Et on calcule ainsi les différentes distributions des grains, donc radialement et verticalement, aussi la température des grains de poussière. Et les différentes cartes qu'on obtient à la fin dépendent est-ce qu'on choisit de regarder l'émission des poussières, auquel cas c'est ce qu'on appelle l'émission continue, ou est-ce qu'on veut observer l'émission du gaz, donc cette fois-ci c'est l'émission dans des raies, et donc principalement les raies d'hydrogène. Donc jusqu'à il y a une quinzaine d'années, tout le monde pensait que les disques étaient très très bien représentés par un type de modèle comme celui-ci, où la matière allait jusqu'à l'étoile. Et c'est là qu'on est arrivé avec l'interférométrie. Donc on a commencé à mesurer, comme je vous l'ai dit, avec des visibilités, des tailles caractéristiques d'émission, l'extension de l'émission. Et on a commencé à faire ça dans l'infrarouge proche, donc on est sensible à l'émission des poussières qui sont autour de 1500 degrés. Donc ici, je représente la taille caractéristique qu'on a pu observer avec l'interférométrie dans l'infrarouge proche en fonction de la luminosité de l'étoile. Et on voit, en fait, donc on a fait ces mesures sur plein d'étoiles, donc ça a pris beaucoup de temps, puisqu'à l'époque, on n'avait que des interféromètres à deux télescopes, et on se rend compte que le rayon qu'on mesure pour ces étoiles est totalement corrélé à la luminosité et en fait correspond à, et suit une loi en fait qui correspond à la physique de la sublimation des poussières. Et en fait, ces observations ont vraiment révolutionné les modèles, notre vision des modèles de disques. Donc ce modèle prédisait en fait des tailles caractéristiques qui étaient très très proches de l'étoile, puisque en fait on était très chaud, très proche de l'étoile, et ne fonctionnait pas du tout pour reproduire ces observations. Et on a introduit en fait ce type de modèle où l'intérieur de ces régions est très faiblement dense et très peu opaque. Donc l'étoile irradie directement le bord interne du disque où les poussières peuvent survivre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, les poussières se subliment. Et ce bord interne, puisqu'il est irradié directement, est très chaud et sous l'effet de la chaleur, en fait, gonfle. Et ici, je représente une vue d'artiste où, en fait, on voit l'étoile avec un petit peu de matière de gaz à l'intérieur. Et en fait, cet énorme bord interne du disque qui est gonflé donc sous l'effet de l'irradiation directe de l'étoile. Et dans l'infrarouge proche, on est dominé par cette émission, donc on s'attend à voir un anneau à cette position-là. Donc ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on prend en fait des mesures de photométrie sur un disque qu'on essaye de modéliser avec différents modèles. Donc ici, je prends le cas des disques de transition dont je vous ai parlé en introduction. Donc ces disques où on pense qu'une planète est en train d'interagir avec le disque et est en train de créer un sillon planétaire. Donc on part d'un modèle qui ressemble à ceci, donc avec un disque interne, donc une étoile, un disque interne, et puis ensuite un sillon planétaire créé par la planète et un disque externe. Et donc on fait tout d'abord des simulations hydrodynamiques. Donc on prend uniquement le gaz, on met une planète dedans, comme je vous ai montré pour la petite vidéo, et cette planète en fait crée un déficit de matière donc au niveau de sa position, donc ici dans le gaz, et ça nous donne en fait la structure du gaz. Et par-dessus, on va rajouter des poussières, et on va calculer donc le transfert radiatif, l'absorption, l'émission des poussières. Et on veut reproduire donc la densité spectrale d'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc le flux en fonction de la longueur d'onde. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a en fait un déficit d'émission qui est en fait relié à ces déficits de matière. Donc ce petit trou ici est la signature de ce disque qui est en transition. Donc si on faisait une image de ça, on verrait un trou au milieu. Et en fait ici, vous avez la contribution de l'étoile, donc dans l'UV visible, et dans l'infrarouge, comme je vous ai dit, la contribution du disque. Donc avec notre modèle, on est capable de reproduire l'émission du disque externe, donc ici, cette courbe ici violette, et ici la courbe rouge pointillée, et en fait l'émission des régions les plus internes. Donc on arrive à calculer des cartes. Donc ici je montre par exemple les cartes qu'on obtient avec le transfert radiatif, donc on voit le disque interne, ensuite le sillon planétaire et l'émission du disque externe. Et on se rend compte, en fait, en appliquant ces méthodes sur un grand nombre de sources, que ces sources de transition, ces disques de transition, ont en fait des disques internes qui sont très, très ténus. Donc, très, très peu de masse, de l'ordre de 10 moins 10 masse solaire, donc très peu de masse. Et on se rend compte aussi que ces disques sont souvent non complanaires avec le disque externe. Donc, en fait, on a des sortes de disques internes qui ne sont pas alignés. Donc, ce disque interne doit aussi être réapprovisionné, c'est-à-dire que même si on a une planète à l'intérieur, il faut quand même qu'il y ait des grains de poussière qui traversent les sillons planétaires pour arriver dans le disque interne. Pourquoi ? Parce que l'étoile est encore en train d'accréter de la matière. Donc, si on prend la matière qui est dans le disque interne et qu'on regarde quel est le taux d'accrétion par an, on se rend compte qu'en fait, la matière du disque interne devrait disparaître en 10 ans. Donc, ce n'est pas possible. Pas possible parce que ça voudrait dire qu'on observe juste au moment où il y a encore de la matière et ça c'est statistiquement impossible. Donc on observe aussi des preuves qu'il y a de la sédimentation des grains, donc c'est-à-dire que les grains commencent à se sédimenter vers le plan médian du disque et commencent à grossir, et ça c'est des indications d'évolution. Et donc c'est pas vraiment étonnant parce qu'en fait ces disques-là sont des disques qui sont extrêmement perturbés, donc en l'occurrence ici vous voyez une image en lumière diffusée. Donc à des échelles qui sont beaucoup plus grandes pour le coup, c'est le disque externe, et on voit des bras spiraux qui sont en fait probablement le résultat d'une interaction avec une planète ou avec un compagnon. Ceci dit, tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant est fortement dépendant du modèle. Donc toutes les conclusions peuvent être complètement fausses si mon modèle à la base est complètement faux. Et donc, ce qu'on veut faire à terme, c'est de la reconstruction d'images. Donc j'ai vu que vous avez eu des séminaires précédemment d'imagerie, donc vous devez probablement connaître le principe. Si on prend un disque qu'on voit ici à des distances de quelques centaines d'unités astronomiques, donc très lointaines, donc un disque observé par le Hubble Space Telescope, et qu'on zoome, on veut savoir, à l'échelle de la taille de l'orbite de la Terre, comment se distribue la matière. Et on veut le savoir indépendamment des modèles. On ne veut pas être biaisé par les hypothèses de nos modèles. Et donc pour cela, on repart sur ce théorème. On a besoin d'inverser, donc on a toutes ces mesures-là, on a besoin d'inverser cette relation, cette transformée de Fourier, pour obtenir l'image de l'objet. Et donc, il faut pour cela avoir, premièrement, énormément de mesures, et deuxièmement, d'avoir un algorithme de reconstruction d'image qui va en fait deviner et proposer des solutions pour toutes les mesures que je n'ai pas. C'est-à-dire que je vais avoir une grande quantité de mesures, mais il y en a plein d'autres que je n'aurai pas. Et donc, il va me proposer une solution. Donc, par exemple, on a fait ce type d'observation sur une étoile massive, donc de l'ordre de 5 masses solaires, et on a obtenu une quantité énorme de mesures, mesures interférométriques, donc 1500 visibilités, 500 mesures de clôture de phase, donc ça c'est le plus grand nombre d'observations obtenues sur une étoile jeune, et ça a nécessité 14 nuits d'observation étalées sur 2 ans au VLTI, donc c'est un effort vraiment considérable. Donc a priori, on fait des courbes de visibilité qu'on plotte ici en fonction de la séparation entre les télescopes, et de clôture de phase. Donc, en temps normal, on ferait de la modélisation, prendre un modèle, on essaierait de coller les prédictions du modèle à nos observations interférométriques. Mais là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'inverser la relation de la transformée de Fourier en utilisant un code de reconstruction qui s'appelle MIRA. Et voilà ce qu'on obtient. Cette image, donc c'est une image en bande cadre, dans l'infrarouge moyen, avec donc de cet objet, avec une résolution angulaire de l'ordre de cette tâche, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas croire tout ce qui est plus petit de cette tâche. Donc, ce qu'on peut croire ici, c'est qu'on peut croire la distance, par exemple, entre ces deux bras de l'anneau, mais ici, c'est censé être l'étoile, et l'étoile, c'est censé être un pixel sur mon image. Donc, l'étoile, elle ne fait pas cette taille-là, qui est en fait de l'ordre de 2 millisecondes d'angle. Donc, l'étoile sur mon image fait cette taille-là, simplement parce que je n'ai pas la capacité pour la résoudre. Par contre, je résous bien cette structure-là, qui est en fait l'émission du bord interne du disque au niveau de la sublimation des poussières. Donc, ce qu'on retrouve comme taille d'émission et comme inclinaison du disque sont en fait en accord avec des observations précédentes. Mais sur cette image qui est une vue d'artiste, on a coupé ici le disque pour pouvoir voir à l'intérieur, mais en pratique, évidemment, le disque est rempli. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'on a ce manque d'émission ici. Et comme on est encore vraiment dans les tout premiers pas de cette technique, on est obligé de tester l'algorithme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un modèle qui est notre meilleur modèle, donc on revient en arrière, on prend le meilleur modèle qui va bien reproduire les observations interférométriques, et on va utiliser, donc c'est ce modèle-là, qui est en fait donc un disque avec ici le rayon où se sublime les poussières, une étoile et du gaz à l'intérieur, donc qui ne ressemble pas du tout à mon image finale. On fait la transformée de Fourier, on rajoute du bruit, on fait exactement comme si c'était des observations de cet objet. Donc on a des données simulées, qui sont très bruitées, et à partir de ces données, on essaye de reconstruire une image. Donc c'est une image d'un modèle, certes, mais avec beaucoup de bruit, et dans les mêmes conditions que les observations. Et on compare cette image du modèle à l'image qu'on a obtenue directement à partir des vraies données. Et on se rend compte qu'elles sont assez similaires, qu'en effet, l'étoile centrale est relativement étalée, parce que ça, c'est ma limitation en résolution angulaire, que la distance entre les deux bras de l'anneau est reproduite, et que cette absence d'émission ici est aussi reproduite, et simplement due au fait que, j'ai des barres d'erreur sur mes mesures trop grandes pour me permettre de reproduire ce flux ici qui est relativement faible. Donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était concernant l'émission des poussières. Maintenant, je vous ai dit que l'émission du gaz est aussi relativement importante, puisque le gaz est l'élément majoritaire en masse du système. Donc précédemment, sur les étoiles jeunes, on a toujours estimé des taux d'accrétion. Comme je vous ai dit qu'on ne pouvait pas directement imager ces régions, on a toujours estimé les taux d'accrétion en se disant que l'hydrogène émettait serré dans les colonnes d'accrétion magnétosphérique. Donc c'est une hypothèse très forte, mais elle semble être soutenue parce que si on mesure de manière indépendante le taux d'accrétion et qu'on le représente ici en fonction de l'intensité de la raie d'hydrogène dans braquette gamma, on se rend compte qu'il y a une corrélation, bon, avec une dispersion relativement large, mais il y a quand même une corrélation. Donc on se dit, bah tiens, c'est un bon traceur d'accrétion. Les raies d'hydrogène sont des bons traceurs d'accrétion. Donc je vous rappelle que les rayons, les tailles caractéristiques de l'accrétion sont vraiment très faibles. Et nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'avec l'instrument Amber, on a, en plus de l'interférométrie, la capacité de faire l'interférométrie dans les raies, c'est-à-dire avec une dispersion spectrale. On a un spectrographe en plus de l'interféromètre. Et donc ici, j'ai observé une binaire, donc principalement, ici ce sont des mesures sur l'étoile la plus massive, qui est une étoile de 15 masses solaires. Et je représente ici, donc en fonction de la vitesse, donc de la longueur d'onde, le spectre de la raie braquette gamma, donc vous voyez la raie en émission. Ici, je représente les visibilités, donc vous voyez que les visibilités changent à l'intérieur de la raie. Donc ça me dit que l'émission de la raie, elle est plus compacte que l'émission des poussières qui est responsable de ces mesures-là. Et comme je disais tout à l'heure, les phases différentielles me permettent de voir un déplacement du photocentre à travers la raie. Donc, c'est-à-dire que l'émission est forcément en mouvement. À partir des visibilités, on a des tailles caractéristiques, et j'estime une taille caractéristique de l'ordre de 3 unités astronomiques pour la raie de l'hydrogène, qui est donc beaucoup plus grande que ce qu'on attend pour l'accrétion. Mais ce qu'on arrive à faire de plus joli, c'est en reprenant toutes les phases différentielles, donc cette fois-ci on en a 6, qu'on a obtenues le long d'orientations différentes dans le ciel. Donc on a le photocentre qui va changer à travers la raie le long de plusieurs orientations, et on arrive à reconstruire ce qu'on appelle un déplacement astrométrique, c'est-à-dire qu'on regarde dans le ciel, on combine l'ensemble de ces observations pour regarder les déplacements de la raie de l'hydrogène dans le ciel. Donc ici je représente le nord, ici l'axe est-ouest, et on voit en fait qu'on a un déplacement, donc les points de mesure en bleu sont des longueurs d'onde correspondant à l'émission d'atomes d'hydrogène qui arrive vers nous, et en rouge l'atome d'hydrogène qui s'éloigne de nous, et on peut voir qu'en fait on a des déplacements qui croissent en fonction de la vitesse, alignés plus ou moins le long de cet axe. Donc on se dit maintenant, qu'est-ce que c'est? On a besoin d'interpréter ça avec des modèles. Donc en fait, on arrive à atteindre une résolution angulaire de l'ordre de quelques microsecondes d'angle. Donc en fait, ça correspond ici à des échelles de l'ordre de 0,02 unités astronomiques. Et on se demande tout d'abord, est-ce que c'est en accord avec l'accrétion de matière, puisque c'était ça notre paradigme de base. Non, ce n'est pas en accord, parce qu'en fait, on obtient des déplacements qui augmentent avec la vitesse. Or, quand vous avez de l'accrétion, la vitesse est de plus en plus importante à mesure que le gaz va s'écraser sur l'étoile. Donc, si vous observez ça de loin, les vitesses devraient, les déplacements devraient diminuer avec les vitesses les plus élevées. Or, on observe le contraire. Est-ce que ça peut être le disque qui tourne ? Non, parce que tout d'abord, si c'était le disque qui tournait, on s'attendrait à voir ses déplacements le long de l'axe du disque qui est représenté ici. Et là, c'est perpendiculaire à l'axe du disque. Et les mesures de vitesse qu'on a sont beaucoup trop grandes pour être compatibles avec la rotation d'un anneau de gaz qui serait à 0,1 ou 0,2 unités astronomiques. Donc, c'est plus probablement de l'éjection de matière. Et en effet, je superpose ici l'émission dans l'arrêt de fer à grande échelle cette fois-ci, donc ce n'est pas du tout les mêmes échelles, mais on voit ici l'émission d'un jet aligné avec notre déplacement astrométrique. Donc ce jet-là est détecté à des centaines d'unités astronomiques et nous, on a accès vraiment à ce qui se passe à l'intérieur de l'unité astronomique centrale. Et ce qui est intéressant ici, c'est aussi de voir, quand vous reprenez donc, cette carte d'émission dans l'arrêt du fer, ici vous avez l'étoile centrale et en fait, donc ça c'est l'émission, et en rouge, je ne sais pas si vous voyez en rouge, c'est la mesure du centroïde de l'émission, et on voit qu'elle oscille en fait. Et ce qu'on pense, c'est que le jet est en train de précesser. Et ça, c'est une indication très claire qu'il y a un compagnon proche, donc une autre étoile qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'on n'a pas le pouvoir de résolution, qui est très proche de l'étoile qui émet le jet et qui va faire, en fait, par interaction gravitationnelle, bouger le jet. Donc, les conclusions, c'est qu'en fait, même si tout le monde pense que les raies d'hydrogène tracent l'accrétion, c'est aussi un très bon traceur de l'éjection. Donc, les perspectives de recherche dans ce domaine sont intrinsèquement liées aux instruments qui vont arriver dans la prochaine décennie, notamment au VLT. Donc, je représente ici toujours la densité spectrale d'énergie, donc le flux en fonction de la longueur d'onde, pour le disque avec les différentes régions correspondantes. Donc, je sais que Denis Mourard est venu vous donner un séminaire, donc il a dû vous parler de l'instrument Vega, qui est un instrument qui travaille dans le visible, donc je n'ai pas du tout parlé, mais qui est très très puissant, puisqu'il permet, en travaillant dans le visible, d'avoir une résolution angulaire inégalée jusque-là, donc de 0,4 millisecondes d'angle, et qui permet aussi donc, d'observer des raies comme la raie H-alpha, qui est une raie très étudiée par ailleurs, et donc de contraindre vraiment les régions où sont lancés les jets, c'est-à-dire de contraindre le mécanisme à l'origine de l'éjection. Il y a l'instrument Gravity qui va recombiner quatre faisceaux qui arrivent au VLT d'ici un an et qui va donc permettre de faire de l'imagerie de manière très efficace des objets, donc des régions autour de 0,5, une unité astronomique. Il y a un autre instrument de seconde génération qui s'appelle MATISSE, qui va travailler plutôt dans les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen et qui va donc, avec des résolutions de l'ordre d'une dizaine de millisecondes d'angle, imager aussi directement et faire de la spectroscopie des grains le long de la surface du disque dans des régions d'une dizaine d'unités astronomiques, donc vraiment les régions de formation des planètes. Et enfin, il y a l'interféromètre ALMA, dont vous avez certainement entendu parler, qui va vraiment révolutionner notre science sur les disques parce qu'il va permettre d'avoir accès à l'intégralité du disque, donc avec des traceurs différents, c'est-à-dire que ALMA va être sensible à des grains de poussière de la taille du millimètre, et aussi à l'émission du gaz dans les régions les plus externes, qui sont froides, et les régions les plus internes, qui sont aussi très froides. Voilà, je vous remercie.